DW. Magazine Santé.
C'est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises, des crises épileptiques.
Un petit enfant qui fait des révisions oculaires avec morsure de la langue, et l'enfant peut avoir des baves ou des mousses aux lèvres et mettre des urines ou des selles en même temps. Ce sont des signes qui montrent que cette personne est en train de faire une épilepsie.
Vous l'aurez compris, dans ce magazine, il sera question de l'épilepsie. Nous irons au Burundi pour voir comment se fait la prise en charge. Dans la seconde partie de ce magazine, il sera question de la thyroïde et de ses troubles. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. L'épilepsie, c'est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques qui traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Au Burundi, l'épilepsie reste une maladie assez méconnue. En Teddy Test Niragira, notre correspondant à Bujumbura a rencontré des malades, des proches et un spécialiste de la maladie. Il revient sur les causes, manifestations et la prise en charge de l'épilepsie au Burundi.
Je ne m'évanouissais jamais pendant la journée, je ne faisais les crises que pendant la nuit. À part la famille, aucune autre personne n'est au courant de ma maladie, sauf les gens de mon église, car au début de mes crises, ma mère m'a emmenée à l'église pour une séance de prière. Elle croyait que c'était des démons. C'est en cas d'irritation ou de fatigue après les tâches difficiles que je faisais des crises. Cela pouvait durer une heure et se répéter une heure après. Je restais affaiblie toute la journée.
Clémentine Niongere, 25 ans, souffre de l'épilepsie. Depuis une année, elle se fait soigner dans un centre spécialisé à Bujumbura, l'Action pour la promotion de lutte contre l'épilepsie. Il s'agit du seul centre spécialisé dans la prise en charge des épileptiques au Burundi. Ce matin, Clémentine vient pour la seconde séance de contrôle médical après près d'une décennie de souffrance. Si certains, comme Clémentine, ne souffrent pas d'évanouissement, d'autres par contre y sont confrontés. Mais il y a également d'autres signes souvent difficiles à identifier. Gloria décrit la situation de son fils épileptique de 7 ans.
Il monte et descend sur les bancs quand d'autres suivent les cours. L'enseignant pense qu'il ne mérite pas d'avoir un bulletin parce qu'au lieu d'écrire, il ne fait que dessiner des cercles bizarres. Donc il ne sait rien et ne fait que se promener et jouer à l'école. Son cahier reste chez l'enseignant, sinon il risque de le déchirer ou il y fait des dessins. Il présente des symptômes d'un épileptique, comme la perte de mémoire par exemple.
Après une première consultation médicale, le fils de Gloria a commencé un traitement avec un rendez-vous de contrôle médical tous les 4 mois. À l'Action pour la promotion de lutte contre l'épilepsie, certains patients viennent de loin, des pays voisins du Burundi, et doivent donc parcourir de longues distances pour pouvoir être pris en charge. Outre la distance qui complique la prise en charge, il y a aussi l'accès aux médicaments qui souvent sont onéreux et rares. Une situation que déplore Émile Kavakoulé, père d'un enfant épileptique sous traitement.
C'est compliqué de trouver les médicaments. Je suis un fonctionnaire de l'État et j'ai une mutuelle de santé. Mais il m'arrive d'avoir des problèmes avec en payant certains médicaments à 100%. Je crois que pour les non-fonctionnaires de l'État, c'est encore plus compliqué. Je prends mon propre exemple pour le coût des médicaments et le transport. Pour me rendre à Bujumbura, ce n'est pas facile et il faut suffisamment de préparatifs. Il nous arrive souvent de rater les rendez-vous médicaux.
Les spécialistes dénombrent actuellement plus de 100 types d'épilepsie de différentes formes. L'identification et la prise en charge des épileptiques se heurtent à plusieurs défis, dont l'insuffisance des structures de soins spécialisées, mais il y a aussi les préjugés. Par manque d'informations, certains associent l'épilepsie à la sorcellerie et dans certaines localités, les malades se tournent vers les tradis praticiens ou des exorcistes pour se faire soigner. En réalité, l'épilepsie est une maladie chronique qui attaque le système nerveux central avec des symptômes variés. Jean-Pierre Chimilimana, épileptologue et responsable du Centre Action pour la promotion de lutte contre l'épilepsie.
Par exemple, un petit enfant peut faire des révisions oculaires avec des pleurs incessants, avec morsure de la langue, mouvement tonico-clonique. Et l'enfant peut avoir des baves ou des mousses aux lèvres et mettre des urines ou des selles en même temps. Ce sont des signes qui montrent que cette personne est en train de faire une épilepsie.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les causes de l'épilepsie peuvent être structurelles, génétiques, infectieuses, métaboliques, immunitaires ou encore inconnues. Le spécialiste en épilepsie revient sur les principales causes de la survenue des crises épileptiques.
Les causes sont multiples. Le plus souvent, ce sont les problèmes liés avec la natalité, qu'on appelle souffrance fœtale. Ça peut s'agir des maladies dégénératives, par exemple, qui diminuent l'immunité. Par exemple, les hypertensions, le diabète, ça peut jouer un rôle dans l'apparition des crises parce qu'il y a diminution de la résistance immunitaire. Il peut y avoir d'autres maladies qui favorisent la survenue des crises, comme la cysticercose. Ça vient des viandes de porc qui sont infectées par la ténia saginata. Si par malheur tu tombes sur la viande de porc malade et que tu le cuisines mal, parce que ça résiste sur la chaleur, plus de 50 degrés Celsius, si tu manges, il y a la chance d'être attaqué par ces cysticercoses. Ça fait ce qu'on appelle une migration cellulaire et ça migre jusqu'au cerveau. Ça installe des colonies et ça génère des crises. Des crises. Avec le meilleur traitement du monde, tu ne peux pas guérir si tu as des cysticercoses installées dans le cerveau. C'est difficile à traiter dans son cas.
Depuis 2015, environ 7000 épileptiques, dont la majorité âgée de moins de 15 ans, ont consulté le médecin. Des Burundais comme des étrangers voisins, au moins 50 nouveaux cas sont identifiés chaque mois. L'épilepsie est une maladie non transmissible qui touche 50 millions de personnes dans le monde, dont près de 80% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon une étude publiée par l'OMS en février de cette année. En Tédité Steniragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez Capsule Santé sur la DW. On va s'intéresser à présent à un tout autre problème de santé. Il s'agit des troubles de la thyroïde et on en parle avec le docteur Rudy Arnaud Nana, spécialiste de médecine interne et de santé publique au Cameroun.
DW.
Bonjour docteur Rudy Arnaud Nana.
Bonjour.
Alors avec vous on va parler de la thyroïde, il s'agit d'une glande du système endocrinien. D'abord, où se situe précisément la thyroïde et quel est son rôle dans l'organisme ?
Comme vous avez dit, la thyroïde est une glande. Elle est située à la base du cou. Elle a deux lobes, un gauche et un droit, qui sont rejoints par un isthme au centre. Et la thyroïde a pour rôle de produire des hormones, notamment deux, la thyroxine, qui est l'hormone principale du métabolisme, c'est-à-dire celle qui règle le métabolisme de base, la production d'énergie en fait du corps. Quand vous vous sentez en vigueur, c'est la thyroxine qui est en train d'agir. Et aussi la calcitonine. Mais elle, c'est une hormone qui régule le métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire les os. Bref, la solidité des os. Ces hormones, notamment la thyroxine, on va se concentrer sur elle, régulent la production d'énergie dans les cellules. L'énergie, c'est une molécule dans le corps qu'on appelle l'ATP. Et la thyroxine favorise justement la production de cette ATP-là.
Chez certaines personnes, peuvent apparaître des troubles comme l'hyperthyroïdie. Et quels sont les symptômes de ces troubles, notamment l'hyperthyroïdie ?
Les symptômes de l'hyperthyroïdie, justement, le premier symptôme, c'est l'hyperactivité. Les personnes en hyperthyroïdie ont une intolérance à la chaleur ambiante parce que déjà leur corps est très chaud. Ils ont aussi une perte pondérale parce qu'ils brûlent toute leur graisse dans le processus de production d'énergie. Donc, en général, les hyperthyroïdiens sont amaigris. Ils ont aussi des symptômes psychiatriques. Ils sont très actifs. Ils ont des irritabilités. Ils ont parfois même des diarrhées parce que le système digestif, lui, fonctionne trop vite. Et élimine tout ce qu'il mange.
Et à partir de quand est-ce qu'on doit consulter un médecin quand on pense souffrir d'une hyperthyroïdie ?
Je vais déjà commencer par dire que l'hyperthyroïdie est sous-diagnostiquée dans le contexte africain. Pourquoi ? Parce que les symptômes sont non spécifiques. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup de choses, mais qui perd du poids. Il mange beaucoup, mais il perd du poids. Il est tout le temps en train de faire plusieurs projets. Il a un état psychiatrique très irritable, très colérique, et il a cette intolérance à la chaleur. La nuit, il a toujours envie d'avoir les fenêtres ouvertes. Ça ressemble à beaucoup d'autres choses. Ça ressemble, par exemple, chez la femme au syndrome préménopausal. Ça ressemble à quelqu'un qui pourrait avoir une autre infection comme le VIH, la perte pondérale. Du coup, voir un endocrinologue ou un interniste pour un problème comme ça, c'est souvent difficile pour les malades. Et même parfois, les généralistes, eux, ne voient pas que c'est ça le problème. Donc, les malades doivent consulter quand ils commencent à constater qu'ils perdent trop de poids ou bien qu'ils ont ce changement d'humeur, ils sont plus irritables ou bien qu'ils commencent à développer cette intolérance à la chaleur.
Et quand on arrive à établir un diagnostic, quel traitement est généralement proposé aux patients qui souffrent d'une hyperthyroïdie?
Les malades qui ont les hyperthyroïdies souffrent beaucoup. Ils font une errance diagnostique très longue, de médecin à médecin. Surtout quand ils commencent par les médecins généralistes, parfois les infirmiers du quartier, qui ne comprennent pas ce que c'est. On va faire tous les tests. Et donc, ils vont souvent faire beaucoup d'hôpitaux. C'est vraiment un parcours du combattant. Les quelques cas que j'ai déjà diagnostiqués, ce sont des malades qui traînent leur maladie depuis plus de 2 ans et qui ont même déjà des impacts psychologiques de savoir qu'ils ne vont pas bien, ils font la diarrhée, ils perdent du poids, ils ont cette chaleur corporelle importante, mais on leur dit qu'on ne voit rien. Parce que la plupart du temps, les premiers bilans ne s'orientent pas vers le bilan hormonal. Et donc, ça crée un stress anxieux chez ces malades-là. Certes, la population générale, le nombre de personnes, la prévalence de l'hyperthyroïdie n'est pas très élevée, mais les peu de gens qui souffrent de ça vivent un vrai calvaire diagnostique.
Donc, il y a aussi l'impact psychologique qui affecte beaucoup les patients.
Exactement. À partir d'un an de maladie, vous convenez avec moi que vous n'êtes plus dans votre état normal. Surtout quand vous regardez les symptômes, la diarrhée, vous vous salissez tout le temps, vous ne pouvez plus sortir, vous êtes inconfortable à cause de la chaleur, vous êtes irritable, vous détestez être contrarié.
Et comment on traite ces patients quand on finit par savoir que c'est vraiment l'hyperthyroïdie? Quel médicament?
Oui, quand le malade a la chance de tomber sur un clinicien, un endocrinologue ou un interniste qui pose le diagnostic grâce aux mesures endocrinologiques, c'est-à-dire on fait un bilan hormonal TSH, T3, T4. Ce résultat va vous montrer que les seuils de T4, de thyroxine, sont au-dessus de la norme. Le diagnostic est posé, c'est clair, c'est codifié. À partir de ce moment, on va lui donner les antithyroïdiens de synthèse. Les antithyroïdiens de synthèse marchent très bien. Et en général, en moins de 1 mois, on a régulé et les symptômes cliniques et l'état biologique. Il commence à manger moins, il commence à avoir moins d'intolérance à la chaleur, la diarrhée s'arrête et il a une meilleure humeur.
Capsule Santé, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous continuerons de parler avec le docteur Rudy Arnonana des troubles de la thyroïde et de leur prise en charge. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.